France Musique.
I have a dream.
Yes, we can.
Le 4 heures américain. Antoine Baglin.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une heure dans les coins et recoins du rêve américain. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h.
And think to yourself, there's no place like home. There's no place like home. There's no place like home.
C'était Maria Callas dans Carmen de Georges Bizet, sous la direction de Georges Prêtre. Qu'est-ce qu'un patronyme ? Celui de la Callas, née Sofia Cecilia Kahlos sur le sol américain, fut abandonnée comme tant d'autres au profit d'un nom d'emprunt. Pour le fabricant de pianos d'origine allemande Charles Steinweg, ce sera Steinway. Les anglo-saxons étaient-ils plus féconds que le reste du monde? Rien n'est moins sûr. Au-delà du code noir qui exigeait des maîtres qu'ils baptisent leurs esclaves, pour la plupart des patronymes américains, l'explication n'est pas démographique mais administrative. Comme une sorte de rite de passage, il fallait prendre un patronyme à consonance anglaise à la sortie d'une mystérieuse usine à fabriquer des Américains. On en parlera plus tard. Après la guerre d'indépendance, les Américains font rêver le vieux monde. L'un des premiers à tenter le voyage est le violoniste belge Henri Vieuxtemps. Le Nouveau Monde représente pour le Vieux Monde un pays de cocagne à conquérir. Les Américains l'appelaient « Mademoiselle ».
Je tiens dans le contralto. Avec la main gauche, le soprano. Chantez la basse. Do, sol, fa, fa, mi, sol, sol, do, la, fa, ré, sol. De toute façon, ça, ils écoutent un accord, un accord, un accord. Au bout d'un certain temps, ils entendent. Et ils n'entendent pas encore assez bien. C'est dur d'apprendre à entendre.
Ça me réjouit beaucoup d'entendre cette archive de la grande Nadia Boulanger chantante. Pour beaucoup, elle est surnommée Mademoiselle, et c'est grâce à elle que de nombreux jeunes venus des Amériques se sont rués pour faire leur gamme. Quincy Jones, Lalo Schifrin, Astor Piazzolla, Daniel Barenboim, c'est au XXe siècle la pédagogue incontournable de la planète. À Paris, loin de la prohibition américaine, Philip Glass a également dévoré son enseignement. Écoutons Satyagraha, son premier opéra pour grand orchestre. Il évoque cette question raciale qui hante l'histoire américaine.
Thank you.
La résistance non violente selon Philip Glass. Une œuvre que l'on peut résumer comme une trilogie de portraits et d'âmes à travers l'histoire. Parmi eux, Léon Tolstoï, qui inspirait Gandhi, Rabindranath Tagore, qui l'admirait, et puis, enfin, son successeur spirituel, Martin Luther King. Satyagraha, c'est un discours à taille humaine pour évoquer cette question raciale qui hante l'histoire américaine depuis sa naissance. Essayons, parfois ça marche. Rappelez-vous Trimonisha la semaine passée, et imaginez un peuple d'esclaves affranchis qui décide de créer une nation. Ça paraît fou ? Mais oui. L'American Colonization Society concrétisa ce rêve en 1817, celui d'aider les esclaves américains à revenir en terre africaine. La société acheta des terres, à l'embouchure du fleuve Saint-Paul, en Afrique occidentale. En 1822, non sans de nombreuses tensions avec la population autochtone, le Liberia voit le jour. Duke Ellington, Liberian Suite, I Like the Sunrise.
I like the sunrise, 'cause it brings a new day. I like the sunrise, it brings new hope, they say. I like the sunrise, blazing in the new sky. Nighttime is weary, oh, and so am I. Every evening wish upon a star that my brand new bright tomorrow isn't very far. When that heavy blue curtain of night is raised up high, way out of sight, I like this sunrise. So heavenly to see, I like the sunrise. I hope it likes for me. Upon a star that my brand new bright tomorrow isn't very far. When that heavy blue curtain of night is raised up high, way out of sight, I like the sunrise. So like the sunrise. I hope it likes warm me.
Voici l'aurore. Avec la création du Liberia, ce sont les prémices de l'affranchissement de l'esclave à son bourreau. Durant la guerre de sécession, c'est cette abolition de l'esclavage qui sera notamment érigée comme cheval de bataille. Ce sera la rencontre entre les anciens esclaves venus au nord des États-Unis avec un paquet d'Européens. Oui, au milieu du 19e siècle, les États-Unis aiment se représenter comme un asile pour tous les persécutés venus d'Europe. Pour les paysans irlandais dont les récoltes étaient décimées, pour les Grecs, pour les Allemands, pour les Arméniens, pour les Turcs, pour les Italiens gangrénés par le choléra, pour les Polonais, pour les Juifs de Russie, d'Autriche-Hongrie, pour toute une légion de Slaves, l'Amérique est une terre vierge, libre et généreuse. Elle est symbole de la vie nouvelle, de la chance enfin donnée. Tous ces hommes, aux semelles de vent, partent en direction de l'Amérique par dizaines de millions, par familles entières, par villages entiers. Du Havre, de Naples, de Hambourg ou de Liverpool, les damnés du vieux continent font le pari de devenir les pionniers d'un nouveau monde. Ils vont faire de cette terra incognita le lieu pour chanter, jouer et danser les blessures. Écoutez, dansez.
Ça s'adresse à chacun de vous, vous devez partir.
Pourquoi partir?
Ça, je ne sais pas. Il y a des émeutes, des provocateurs.
Il s'agit de nous?
Vous n'êtes pas les seuls. Votre peuple doit quitter les villages de Zolodin, Ravalevska, le district doit être définitivement vidé. Et j'ai un ordre, tenez! Il y est dit que vous devez vendre vos maisons et partir dans les 3 jours.
Supposez que nous refusions de nous en aller.
On vous y forcera. Vous avez 3 jours.
Tévier, je m'en vais.
Et où allez-vous?
À Chicago, en Amérique.
Chicago, en Amérique? Nous aussi, nous allons à New York, en Amérique. Alors, on va être voisins.
Thank you.
Vous écoutiez Vanessa Wagner et Thibault Lebrun, ils jouaient à quatre mains les danses slaves de Dvorak. Les Slaves. Les nazis les considéraient comme un peuple d'esclaves. Leur berceau d'origine se trouverait sur le territoire de la Pologne actuelle. À la fin du 19e siècle, 23 millions d'Européens, dont 3 millions de Polonais, arrivent sur la terre promise. La Pologne est alors sous la domination de trois empires.
Ladies and gentlemen, I have great pleasure in introducing to you our youngest soprano from Starlight Roof, Julie Andrews. Well, Julie, is this the first time you've ever made a gramophone record?
Oh, yes. Is it your first record, too?
No, not exactly, no. How old are you?
I am 12. How old are you?
I think I'll better ask the questions. What are you going to sing for us?
I'd like to sing the Polonaise from Mimi.
Oh, lovely. Just the kind of junk I like.
Julie Andrews, pour la première fois sur scène dans la revue Starlight Roof, elle interprète la polonaise issue d'un opéra de Ambroise Thomas. Mignon, c'est son titre. Devant des villageoises assemblées, un musicien itinérant chante sa douleur. Il recherche sa fille disparue il y a longtemps. Étrange ressemblance de situation avec l'arrivée en masse des immigrés européens dans un certain centre d'accueil, de tri. Comment vous appelez-vous? Êtes-vous fou? Pourquoi venez-vous? Quel âge avez-vous? Combien d'argent avez-vous? Avez-vous des amis ici? Êtes-vous anarchiste? La tonalité de l'interrogatoire est différente selon les passagers de 3e, 2e ou 1ère classe. Rarement, ceci dit, pour les premières. Ellis Island. Cet îlot des larmes, nous le connaissons des images d'archives en noir et blanc. Nous l'avons vu aussi reconstitué dans des films comme L'émigrant de Charlie Chaplin ou America America d'Elia Kazan. À chaque fois, la séquence est la même. Un paquebot entre dans la baie de New York. On voit le balai des remorqueurs. On entend le mugissement des sirènes et des cornes de brume. Le paquebot, souvent de la White Star Line, passe au pied de la Statue de la Liberté. Elle semble saluer en brandissant son flambeau. Sur le pont, les passagers sont assemblés par grappes. Certains agitent les bras, lèvent leur chapeau vers le ciel, d'autres se tiennent immobiles, écrasés d'émotion, d'appréhension peut-être. Pour des millions et des millions de pourchassés et parias du monde occidental, c'est le moment de franchir la porte dorée, celle qui peut-être leur ouvrira les portes d'un Eldorado, tant vanté par les publicités.
Il ne s'agit pas de s'apitoyer, mais de comprendre. 4 immigrants sur 5 n'ont passé sur Ellis Island que quelques heures. Ce n'était tout compte fait qu'une formalité anodine. Le temps de transformer l'immigrant en immigrant, celui qui était parti en celui qui était arrivé. Mais pour chacun de ceux qui défilaient devant les docteurs et les officiers d'état civil, ce qui était en jeu était vital. Ils avaient renoncé à leur passé et à leur histoire. Ils avaient tout abandonné pour tenter de venir vivre ici, une vie qu'on ne leur avait pas donné le droit de vivre dans leur pays natal. Et ils étaient désormais en face de l'inexorable.
But soft and sweet and rainy. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem, with eyes as black as coal that looks down in my soul and starts a fire there, and then I lose control. I have to beg your pardon. I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden.
Plongée dans Spanish Harlem par Benny King. C'est durant les années 60 que les Portoricains s'installent en masse dans ce quartier. Un peu avant 1910, les parents de Leonard Bernstein débarquent à Ellis Island au même moment que Gustave Mahler. Le gamin de Boston apprend la musique sur le vieux piano de sa tante Clara et développe un éclectisme qui donnera les plus grands standards du music-hall. Vous écoutez France Musique, vous écoutez le 4 heures américain, Leonard Bernstein, Archivina 1958.
Il me semble qu'une forme spéciale de théâtre lyrique se développe en ce moment. Et peut-être West Side Story bon exemplaire.
There's a time for all.
West Side Story et ici Somewhere par la soprano Stéphanie Ortega et la pianiste Lena Kollmeyer. Somewhere, Tonight, America, tout le monde a chanté au moins une fois dans sa vie les grands airs de West Side Story, parfois même sans le savoir. Dès sa création, l'œuvre est un succès. Avant même de devenir un film en 1961, la célèbre comédie musicale a déjà conquis le public de Broadway. Dans le quartier de l'Upper West Side à Manhattan, deux bandes de jeunes jouent des coudes pour conquérir le territoire. D'un côté, ceux de la classe ouvrière blanche, venus d'Irlande, de Suède ou de Pologne. Et de l'autre, la jeune génération de Porto Rico. Vous écoutiez la rumba Cardi de Javier Cugat, arrivé aux États-Unis au début du XXe siècle. Surnommé le roi de la rumba, il est catalan d'origine, il est passé par la porte d'Ellis Island. Mais peut-il être considéré comme un musicien cubain par son œuvre? Un musicien américain peut-être? Cette question-là, c'est difficile. Cela ne revient-il pas à chercher le rapport entre la vie et l'œuvre? Et sur cet éternel serpent de mer, qu'est-il possible de dire de sensé? Ne savons-nous pas depuis Proust? Ou Weinstein, allez? Expliquer l'œuvre par la vie, bah c'est compliqué. Le cas est le même pour des tas d'autres musiciens exilés. Après tout, quelle que soit l'origine de l'immigré, Ellis Island était une incomparable usine à fabriquer des Américains.
Vous avez créé de nouvelles chansons à Montréal?
Non, je devais en créer une, mais malheureusement, l'auteur et le compositeur qui devaient venir nous rejoindre ici et qui apportaient la chanson avec eux sont dans, au camp de concentration de je ne sais pas comment vous appelez ça.
Ah, Ellis Island.
Oui,
oh, un endroit tragique.
No more smiles, no more tears, no more prayers, no more fears. Nothing left, why go on when your love is gone? Shout, we've won, ring the bells through the towns and the farms, will the shouts and the bells ringing back to my arms. Must each man go to war evermore, evermore, while some lone woman stands empty heart, empty hands. When the time came to part and he kissed me goodbye, from the depths of my heart came a great lonely cry. Heaven have mercy, heaven have mercy. Mine, sir, came, they carved his name upon a cross. I remember the dance where we first fell in love, how we whirled around and around while the stars danced above. We would walk by the shore, watch the ship sail away. Lovers need nothing more, just a new dream each day. So we dreamed of a home with a garden so fine, and a son with his eyes and a nose just like mine. Now it's done, why be brave? Why should I live like this? Shall I wait by the grave for my lost lover's kiss? Stop the bell, stop the bell, I've no tears left to cry. Must I stay here in hell? Lord above, let me die. Heaven have mercy, heaven have mercy, heaven have mercy.
Edith Piaf, Heaven Have Mercy. Elle est si rare en anglais. Et en écoutant cette chanson, vous revient certainement son sempiternel et tonitruant. Je m'en balance de l'Amérique, je suis trop triste pour eux, et ils sont trop cons pour moi. Tout le monde n'a pas réaction égale face au nouveau monde. Certains réfutent cette idée d'enrégimentement, cette idée de l'américanité dont on a parlé la semaine passée. C'est le cas d'Edith Piaf. Elle compare dans cet archivinat de 1948 Ellis Island à un camp de concentration. Mais une fois la dite porte franchie, aux tumultes incessants de la rue, aux chansons du théâtre yiddish, eh bien se mêle le ragtime jailli des bordels de la Nouvelle-Orléans. Tout cela s'échappe des rouleaux de piano et des cylindres des gramophones. En 1910, le Lower East Side est aussi peuplé que Bombay. La symphonie des taudis résonne dans toutes les langues, de toutes les couleurs.
To be colorblind, but I met you, and now I find there's green in the grass, there's gold in the moon, there's blue in the skies. That semicircle that was always hanging about is not a storm cloud, it's a rainbow. You brought the colors out. Believe me, it's really true. Till I met you, I never knew a setting sun could paint such beautiful skies. I never knew there were such lovely colors, and the big surprise is the red in your cheeks, the gold in your hair, the blue in your eyes. The colors out. Believe me, it's really true. Till I met you, I never knew a setting sun could paint such beautiful skies. I never knew there were such lovely colors. And the big surprise is the red in your cheeks, the gold in your hair, the blue in your eyes. Red in your cheek, the gold in your hair, the blue in your eyes.
I used to be colorblind, Irvin Berlin, by Anita O'Day. Bien sûr, du noir au blanc, du brun au blond, aux États-Unis pour tout exilé, chaque nuance compte comme un grade. L'Amérique légalement ouverte aux immigrants est encore lointaine, car elle leur reste socialement fermée. Le juif oriental n'apparaît alors guère plus pur que l'ancien esclave. Idées, objets, langage, sons, images, tout s'américanise. Gershowitz devient Gershwin. En 1916, il sollicite Irvin Berlin pour obtenir un poste d'arrangeur musical. Après avoir écouté Gershwin jouer des morceaux au piano, Irving Berlin lui dit qu'il vaut mieux qu'un emploi d'arrangeur et lui conseille de suivre sa propre voix. Trouvera-t-il ou donner de la sienne de voix ? Irving Berlin ne s'était pas trompé. George Gershwin deviendra un compositeur majeur du XXe siècle, une légende, une référence de la rencontre extraordinaire entre le jazz, le klezmer, la musique afro-américaine et l'écriture des modèles européens. Faut-il la nommer, la Rhapsodie Nulou de Gershwin. Ce morceau a fait les beaux jours de nombreuses œuvres cinématographiques. On pense par exemple au film Manhattan de Woody Allen, mais tant d'autres. Adolf Zucker, Sam Goldwyn, Louis B. Mayer, Eric Kahn, les frères Warner, entre autres. Tous sont arrivés à Ellis Island au début du siècle, émigrés juifs sans le sou, mais riches d'une volonté acharnée. Au moment où les frères Lumière, pionniers du cinéma, ne parviennent pas à transformer leur invention en industrie, les nababs du cinéma prennent le relais dès 1910 pour fonder Hollywood. Ils incarnent aux yeux du monde la face la plus brillante, folle, complètement folle, du rêve américain.
Est-ce que vous avez de l'argent ?
Interprète.
Bernhard.
Au matin, j'ai eu le signe de Valentine.
D'où venez-vous ?
D'onde vive ?
Quel est votre nom ?
Bête.
Gracias. Comment tu t'appelles ? Réponds, petit. Comment tu t'appelles ?
Tuo nome. Vito Andolini, natif de Corleone.
Corleone. Vito Corleone. Ça va. À la visite. Suivant.
Le centre d'accueil, de tri, puis plus tard de détention et d'expulsion des migrants, a notamment été filmé par Francis Ford Coppola dans le second volet du Parrain. Mais il a aussi été mis en musique par Meredith Monk et son Ellis Island pour deux pianos que vous venez d'entendre. Récemment, c'est J.R., artiste urbain et comparse de Agnès Varda, qui est allé sur les lieux du melting pot culturel. Il faut imaginer la scène comme un mythe. Un paquebot arrive à Ellis Island, chargé d'immigrants venus d'Europe. Ils sont chargés de bagages, certains parmi eux portent sous le bras un instrument, une mandoline, un baglama, une guitare. Celui qui est parti deviendra-t-il celui qui est arrivé ? Ou alors, deviendra-t-il celui qui est revenu ? Allez savoir. C'est vers eux que se dirigent les chasseurs de têtes de l'époque. Très vite, les jeunes générations croisent patrimoine ancestral et modernité américaine. Les parias irlandais, juifs et italiens brocardés par les xénophobes vont renouveler et incarner le rêve américain. Nous raconterons entre autres la trajectoire de Rachmaninoff aux États-Unis la semaine prochaine. Pour l'heure, concluons donc ce deuxième volet avec une œuvre inspirée du deuxième concerto pour piano du compositeur. Elle est signée Buddy Kay et Ted Mossman. Cette œuvre, c'est Full Moon and Empty Arms par Caterina Valente, rare chanteuse polyglotte, rare, tout simplement.
Full moon and empty arms. The moon is there for us to share, but where are you? A night like this could weave a memory, and every kiss could start a dream for two. upon, and next full moon, if my one wish comes true, my empty arms will be filled with you.
L'émission arrivant à son terme, je tiens à remercier toute l'équipe. À la réalisation, merci à Sophie Pichon, à la technique Pierre Monteil et Loïc Duros. Merci à Gwen Michel et Aude Vassan qui m'ont aidé à préparer cette émission. Vous retrouverez les références des morceaux et archives sur francemusique.fr. La semaine prochaine, troisième volet, une nouvelle galerie de destin marquée par la révolution russe, le stalinisme, le nazisme. Autant d'artistes qui ont contribué à transformer la vie musicale de Broadway et de Hollywood en offrant en héritage leur immense talent. Nous verrons que dès les années 30, la comédie musicale promeut la culture blanche, relayant les artistes afro-américains à des emplois subalternes. Quelle est la forme des jours aux États-Unis ? Réponse la semaine prochaine. Il est maintenant l'heure de retrouver Jérémy Rousseau. À samedi prochain.
À réécouter sur francemusique.fr.